Chapitre 17. Ike ouvrit les yeux. Il avait le dos en compote. Il se leva de son fauteuil de bureau et écouta ses genoux craquer l'un après l'autre. Une double détonation. D'après sa montre, il était à peine 8 heures. Il consulta son téléphone et vit que Mia avait essayé de l'appeler plusieurs fois et qu'elle lui avait envoyé 2 textos assez secs. Le premier plus long que le second, pour lui demander où il était et quand il comptait rentrer. D'un instant à l'autre, les employés de Randolph Paysage seraient là. Et tant mieux, parce qu'il n'y avait pas moins de 7 chantiers à gérer dans la journée. Jazzy, elle, allait être en retard, comme d'habitude. Ike quitta son bureau et s'approcha de l'endroit où il avait massacré le jeune biker. Après le Karcher et l'eau de Javel, on ne voyait plus la moindre trace de sang. Ça faisait 16 ans qu'il n'avait pas tué quelqu'un. 11 qu'il ne s'était pas battu. 11 années à suivre le droit chemin. Un record qui avait volé en éclats en l'espace de quelques minutes. À 2, ils avaient débité le môme et avaient enfoncé les morceaux dans l'avaloir du broyeur, tel un couple de moineaux donnant la béquée à ses petits. À 2, 11 ans. 1 plus 1 égale 2. En prison, il avait lu un livre qui expliquait que, dans certaines religions, il y avait des chiffres qui revêtaient une signification mystique. Il passa un coup de jet d'eau à l'intérieur du bidon en métal jusqu'à ce que les cendres aient arrêté de fumer. Le jean et la chemise du biker s'étaient embrasés comme du petit bois, mais il avait fallu plus longtemps pour que ses bottes prennent l'apparence de 2 mottes en forme. Ike s'aspergea le visage. Il avait servi un grand discours à Buddy Lee sur le fait de ne pas avoir peur de se salir les mains, mais il n'aurait pas pensé que ça arriverait si vite. C'était le problème avec la violence. Quand on la cherchait, on la trouvait. Mais elle vous prenait aussi souvent au dépourvu. Elle n'attendait pas que vous soyez prêt pour vous sauter à la gueule et saloper vos jolies godasses neuves. Et à force de la provoquer, on finissait par se rendre compte qu'on ne serait jamais prêt. Il y avait toujours des imprévus. Soit on arrivait à s'en accommoder, soit non. Au bout d'un moment, on s'habituait. Quand il était plus jeune, il aimait à penser que c'était comme ça qu'on s'endurcissait. Après quelques années à l'ombre, il avait compris qu'il s'était raconté des histoires. Les êtres humains étaient capables de s'habituer à peu près tout. Ça ne faisait pas d'eux des durs, seulement des gens au cerveau malléable. Après un dernier coup de jet sur le bidon, Ike se tourna vers le broyeur de végétaux grâce auquel ils avaient transformé le biker en engrais. Il alla récupérer une bouteille d'eau de Javel dans l'entrepôt et en versa une partie dans l'avaloir. Puis il prit le temps de tout rincer. Il n'y avait pas mieux que cet engin pour se débarrasser d'un cadavre. Par contre, pour ce qui était des preuves, malgré les efforts d'Ike, il était évident que l'appareil était encore couvert de traces d'ADN invisibles à l'œil nu. Pire, il restait probablement des morceaux d'os et de cheveux coincés dans les engrenages. La seule solution, c'était de se rendre à la décharge et de balancer la machine au sommet de la pile rouillée de réfrigérateurs, de lave-linge et de tondeuses hors d'usage. Une babiole à $1000 réduite à l'état de déchet. Il ne pouvait même pas la refiler à un ferrailleur pour récupérer une partie de son investissement. Ike termina son nettoyage et fit rouler le broyeur jusque sur le côté de la bâtisse. Plus tard, il demanderait à un de ses employés de l'aider à le charger dans la benne du pick-up en prétextant qu'il était tombé en panne. Ensuite, il n'aborderait plus jamais le sujet. Il était un peu surpris de la facilité avec laquelle il avait retrouvé cette habitude propre à Riot de mentir sans le moindre scrupule. À la réflexion, il n'était pas si surpris que ça. Il retourna à l'intérieur et s'apprêtait à ouvrir la boutique quand Jazzy fit son entrée avec 30 minutes d'avance. Ike s'arrêta au beau milieu de l'entrepôt, les mains sur les hanches. Il avait donné une clé à sa secrétaire plus d'un an auparavant, mais elle n'était jamais arrivée aussitôt pour s'en servir. « Tu sais qu'il est 8 heures du matin, hein ? Pas 20 heures !» railla-t-il, et Jazzy leva les yeux au ciel. « La voiture de Marcus est tombée en rade, et j'ai dû l'emmener au boulot à la miroiterie. Comme c'est à peine à quelques kilomètres d'ici, je me suis dit que ça valait pas le coup de repasser à la maison. Je pensais que tu serais content de me voir de si bonne heure. »«
Je le suis. J'ai juste du mal à me remettre du choc. »
Jazzy leva à nouveau les yeux au ciel et se dirigea vers son bureau. Ike allait lui emboîter le pas quand il entendit un concert de rugissements en provenance de la route. Il s'arrêta, se retourna et, par la porte vitrée, il vit une armée de motos pétaradantes passer au ralenti devant l'entrepôt.